Tu peux parler, dire quelques mots?
Je suis Clémence, je mange une pomme.
Tu es Clémence, tu manges une pomme et tu travailles?
Pour Aurore, à la coordination des grands voisins.
À la coordination des grands voisins? Pour Aurore.
Ouais.
Et le travail d'Aurore, c'est quoi?
De faire du social sur le projet, d'assurer que les résidents, les personnes accueillies, elles participent au projet.
Avant, il y avait Aurore tout seul ici?
Ouais, au tout début, on est arrivé, on a intégré une partie du site qui était encore occupée en partie par les services hospitaliers. Et du coup, il y a des personnes qui étaient hébergées au centre Pierre Petit qui sont arrivées là en 2011, il me semble. Donc il y avait encore des services hospitaliers. Et puis les services hospitaliers se sont vidés. Et il y a un moment où Pierre Petit se sont retrouvés seuls dans un site où tous les autres bâtiments étaient murés. Et puis après, le projet des grands voisins est né, mais c'est arrivé courant 2015, quoi. L'ouverture au public en septembre 2015. Et je me rappelle, je discutais avec Xavier, qui était chef de service de Pierre Petit à l'époque. Moi, je le rencontrais parce que j'étais chef de service de Yankadi, un resto d'insertion, et on leur livrait des plats, en fait, ici, aux grands voisins à Pierre Petit. Et c'était un peu tendu, les relations avec certains de ces travailleurs sociaux. Et puis, du coup, on a vu une conversation un peu plus élargie où il me disait, mais en fait, c'est compliqué ici sur ce site. Il faut savoir que, quand même, nous, on était tout seuls. Et puis, que tout d'un coup, on a vu arriver un projet dans lequel on n'a pas mis la main à la pâte pour la construction. Et puis, il fallait un peu changer plein de choses, quoi, la vision du projet, le travail en règle générale, quoi. Et c'était un peu mon premier. Œil que je mettais à l'intérieur du projet des grands voisins. Parce que moi, j'y travaillais au côté opérationnel, quoi, on livrait des plats. Mais j'avais pas la vision de ce qui s'y passait en fait, quoi.
C'est pas Aurore qui a choisi qu'il y a ce camp et le plateau urbain avec eux?
Non, enfin un plateau urbain si, parce que en fait Aurore, on avait hérité d'un site, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle dans le 8e, qui était un super site où en fait il y avait de l'hébergement d'urgence famille, et puis il y avait une partie des espaces qui pouvait pas être transformée en hébergement parce qu'il y a des normes de sécurité à respecter, quoi. Et en fait, dans ce site-là, il y avait une superbe nef, un truc avec 8 mètres de haut, enfin une nef, quoi. Et donc, il y a eu tout de suite quand même l'idée de se dire, bon bah, viens, on en fait un truc, quoi. Et plateau urbain, eux, ils avaient placé des occupants pour louer des espaces de travail dans les endroits où c'était pas, on pouvait pas faire de l'hébergement. Et puis, il y avait eu cette envie de se dire, bon, on a une nef, on peut faire des trucs. Et je me rappelle, à l'époque, du coup, moi, je travaillais au resto, et on faisait des événements, enfin, on livrait des repas pour des événements. Et je me rappelle qu'il y avait My Little Paris qui faisait des trucs, enfin... Là, il y avait un peu des initiatives, des essais en tout cas. Et après, il y a ce week-end, non, on n'a pas du tout choisi, c'est la mère du 14e, Karine Petit, qui nous a mariés de force. En fait, la volonté, c'était qu'il y ait une ouverture au public, quoi, extérieure. Et nous, en vrai, Aurore, on ne sait pas faire ça. Le plateau urbain, c'est pas leur mandat non plus. Et donc, Karine Petit avait entendu parler, connaissait Yes We Camp. Et du coup, a souhaité qu'ils viennent et qu'ils interviennent dans le projet, quoi.
Parce que les centres d'hébergement d'urgence habituels, ils sont fermés.
Ouais, souvent c'est des bâtiments, des parties de bâtiments qui sont pas intégrées forcément dans le quartier, où en fait c'est juste on installe des gens, on récupère un bâtiment, on installe des gens à l'intérieur et c'est un espace fermé, quoi, où il se passe tout un travail social, de l'accompagnement, tout ce qu'on peut y faire, mais en tout cas ça n'a pas de lien avec l'extérieur, quoi.
C'est quoi le boulot d'un travailleur social dans un centre d'hébergement?
C'est faire du suivi administratif, où est-ce qu'on est la personne sur son ouverture au droit, sur ses papiers, des choses comme ça. Et puis après, tenter de l'insertion professionnelle, l'insertion sociale, faire en sorte que la personne elle ait accès à des soins, à des recours juridiques, psychiques, etc. Quoi.
Accès à des services, quoi. Ok. C'est quoi le boulot ici, d'un travailleur social?
C'est assez marrant parce que je pense qu'il y a... Du coup, le boulot, il se décloisonne dans le sens où ça ne s'arrête pas au mur de l'hébergement, du centre d'hébergement. Le boulot, il reste le même, sauf que le travailleur social, il interagit beaucoup plus avec les personnes avec lesquelles interagissent les gars qui suivent, quoi. Une personne hébergée qui va fréquenter un lieu à l'extérieur, le travailleur social, il va pas forcément les connaître, quoi. Alors que l'hébergée ici qui va fréquenter la ressourcerie, le référent social, il va les connaître, quoi. Donc il y a une espèce de porosité entre la vie extérieure et puis ce qui devrait rester à l'intérieur du centre d'hébergement, quoi. Après, je pense qu'effectivement, ça pourrait avoir des effets un peu pervers, un peu finalement ma liberté jusqu'où elle va, vu que je suis un peu regardée de partout. Je pense que ça peut être ressenti par certains. En tout cas, je pense que les personnes qui sont hébergées ici, si elles le veulent et si elles le peuvent, elles ont moyen de rencontrer des personnes qu'elles ne rencontreraient pas ailleurs. Elles ont moyen de trouver des opportunités aussi, qui peuvent être professionnelles, ce serait vachement plus dur ailleurs. Et puis moi, je pense que c'est aussi le moyen de faire changer le regard. En fait, quand tu es une personne hébergée, tu es dans une tour, je ne sais pas moi, dans le 19e, ou à Porte de la Chapelle, ou à Grigny, tu restes dans une espèce de perspective un peu invisible, quoi. On sait pas trop quel est ton statut, si t'es hébergé, etc. Et puis tu te mêles pas au tissu du quartier, hormis dans tes activités un peu perso. Alors que les personnes d'ici, je pense que à force de côtoyer d'autres personnes qui viennent pour les grands voisins, pour d'autres choses, pour l'aspect festif, culturel, elles permettent aux gens d'avoir un regard différent finalement sur l'hébergement, quoi. Tu viens au grand voisin, tu te poses à côté de Jean-Luc, ailleurs t'irais pas te poser à côté de Jean-Luc. Ici, tu ne te poses pas la question, donc je pense qu'elles permettent quand même de faire changer le regard.
Par exemple, Yes We Camp, ils inaugurent un cycle universitaire autour de la... Qu'est-ce que ça veut dire être urbaniste aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire faire de l'activation? Une espèce de réflexion sur comment on active des espaces publics, comment on peut développer des usages, comment on peut travailler la mixité sociale, à partir des expériences qu'ils ont eues ici et peut-être un peu ailleurs. Et donc, ils ont une sorte de trajectoire, quoi. C'est-à-dire, une étape 1 de l'urbanisme tel qu'il se faisait jusqu'à présent, et puis il y a l'étape 2, telle la manière dont l'a fait Yes We Camp. En ce sens où il propose une forme de transformation de la manière dont on fait l'urbanisme. Quoi.
Ok.
Et qu'il tire de l'expérience qu'ils ont ici. Et je me demandais si on est travailleur social, non ? Est-ce qu'il y a cette trajectoire de se dire, bah, il y a un avant, bon, bah voilà, et on pourrait le définir, voilà, comment on travaillait avant. Et puis il y a maintenant. Maintenant, voilà, comment ça a modifié le travail et comment ça pourrait être une nouvelle manière de faire du social. Est-ce qu'il y a une sorte de réflexion comme ça de...
Ouais, je pense que la réflexion, elle est vraiment présente. La question que je me pose, moi, c'est de quelle manière on porte cette réflexion à l'extérieur des grands voisins, voire d'Aurore aussi. Nous, c'est des questions, je pense, qu'on se pose tous les jours. Nous qui travaillons pour Aurore, enfin dans le social en tout cas, aux grands voisins. Mais je ne sais pas dans quelle mesure cette réflexion-là, elle se pose ailleurs. Et ce qu'on se disait, moi quand je regardais le programme du DU justement de Yes We Camp, je me disais, mais en fait, il faudrait que nous aussi, on puisse intervenir dans des écoles d'éduc, de social, etc. Pour montrer en fait quels sont les changements de pratique que nous, on a constatés. Ce qu'on a pu constater comme effet, comme impact, et puis que ça soit matière à réflexion en fait, parce que c'est aussi, nous on s'en rend compte, faire changer de pratique, en tout cas demander à des travailleurs sociaux qui ont une pratique linéaire, ancrée, de venir travailler dans un projet qu'on a déjà construit dans notre tête, parce qu'aujourd'hui les grands voisins, ça a donné certaines conclusions, on a des habitudes de travail quand on ouvre un autre projet qu'on veut mixte, on a finalement déjà un petit déroulé qui est dans la tête. Et faire en sorte d'intégrer des travailleurs sociaux qui n'ont pas forcément compris l'objet parce qu'il n'est pas très simple à comprendre et qui n'ont pas de point de comparaison, c'est hyper compliqué. Et si on commençait à la base, effectivement, de commencer à poser ces questions-là dans les écoles, ça pourrait être hyper intéressant. Et c'est une question qu'on s'est posée, mais sur laquelle on ne s'est pas penché.
Tu as des exemples de modifications de pratiques ?
Je dirais que c'est dans la manière dont on fait de l'accompagnement. Je trouve qu'au Grand Voisin, finalement, il y a un champ d'opportunités et on permet aux personnes hébergées de pouvoir s'en saisir. Il y y a un truc où finalement, la position de aider aidant, qui est, je pense, assez dévalorisante, qui est finalement très hiérarchique, quoi. C'est quelqu'un qui tend la main et qui on donne son plat, son hébergement, etc. Je pense que ça fait changer aussi un peu ce système-là, et que finalement, la relation travailleur social et puis suivi, en fait, elle n'est plus tout à fait la même, parce que la personne, elle est en capacité de... Bah, de montrer qu'elle a pu participer à telle ou telle activité, qu'elle a pu lancer, je sais pas moi, son resto, n'importe quoi. Et ce qui fait que avoir cette vision sur l'extérieur, avoir la vision que le mec, en fait, il est capable de se saisir de choses tout seul, bah, j'espère en tout cas que ça rééquilibre un peu cette relation, quoi.
C'est-à-dire que d'un seul coup, on voit de l'autonomie.
Ouais. On la voit et puis en fait, elle concerne un peu le champ d'action quotidien de la personne, enfin du travailleur social, quoi. Parce que sur ce site-là, en fait, ce qui se saisit, c'est ce qui se fait au jour le jour, donc c'est ce qui se fait sur le terrain. Donc en fait, si on a un qui vient bosser pour la menuiserie, bah, le référent social, il va pouvoir le savoir, il va pouvoir en discuter avec la personne, alors sans toujours faire cet œil de Moscou, mais en tout cas, il sentira bien qu'il y a une avancée, quoi. Ce qui est vachement plus difficile à faire quand... tes référents sociaux dans un centre d'hébergement, tu sais que ton gars il a trouvé un boulot là-bas, bah
les conditions de travail tu les connais pas,
ouais voilà c'est
et
ça,
donc si ça se passe mal tu sais pas trop pourquoi ça se passe mal.
Peut-être qu'il y avait plus une relation de partenariat sur certains aspects que de relation aidé-aidant, quoi.
Certaines personnes de Yes We Camp ont tenu à affirmer qu'ils ne faisaient pas de travail social. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? C'est-à-dire, est-ce que le travail social s'est retrouvé d'une certaine manière partagé, quoi, y compris par des gens qui ne sont pas travailleurs sociaux, par finalement les occupants, les gens de Yes We Camp, que tout le monde, en fait, finalement, était dans une forme de travail social, ou est-ce que tu penses que non, il faut maintenir les séparations à cet endroit-là ?
Je pense qu'il n'y a pas, forcément à maintenir des séparations. Après, je pense qu'il y en a qui peuvent avoir l'impression de faire du travail social parce qu'elles tournent leurs tâches, leurs occupations un peu quotidiennes différemment, ou elles pensent un peu plus aux impacts sociaux que ça va avoir sur les personnes qu'ils accompagnent. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire qu'en fait, ce n'est pas un travail, c'est une relation humaine normale, quoi, avec juste un peu plus de bienveillance. Et je crois qu'on peut pas... alors oui, il y a des gens qui sont travailleurs sociaux, donc effectivement, c'est marqué sur leur fiche de poste, ils sont travailleurs sociaux. Après, il y a tout le reste, et c'est un écosystème où t'es bienveillant, donc après que t'aies l'impression de faire du travail social, accompagner un gars et l'aider à faire du chantier, ouais, tu peux considérer ça comme du travail social, tu peux aussi considérer ça comme une relation de travail avec un mec que tu formes, avec un mec que t'accompagnes, quoi.
Ici, on est bienveillant.
Sur ce site-là, enfin, je pense que la bienveillance, c'est aussi quelque chose que tu développes parce que tu gardes tes yeux ouverts sur la réalité d'autres personnes. Et ici, au Grand Voisin, tu peux pas mettre des œillères, quoi. Donc, moi, je dirais que les gens qui perdent cette empathie-là, c'est les gens qui sont hyper éloignés de la réalité, quoi. Le fait qu'il y ait des personnes hébergées, on développe une bienveillance un peu particulière, à savoir... c'est des relations qui sont pas évidentes. Ces gens-là, ils n'ont pas choisi d'être là, contrairement à nous tous. Donc, finalement, on a tous en filigrane le fait d'être plutôt bienveillant avec eux. Et donc, je pense que cette bienveillance un peu générale, elle vient aussi de là. Je pense qu'on ne sait pas encadrer le conflit. Enfin, on ne sait pas gérer les conflits, on ne sait pas les assumer, on ne sait pas comment y répondre. Je parle de manière plutôt générale, où j'ai l'impression que quand même, on n'est pas armé pour ça, quoi. Moi, je suis maman, et donc du coup, je lis plein de bouquins sur comment tu rentres pas en conflit avec ton enfant et tout. Et donc, c'est assez marrant, parce qu'en fait, Il y a, enfin, c'est vraiment un apprentissage, en fait. Et ici, on sait pas toujours très bien le faire. Moi, je me posais des questions. Il y a des gens avec qui ça se passe pas bien. Ben, en fait, soit on les exclut. Sauf que quand tu les exclus, il y a quand même tout un tas de moments hyper compliqués qui viennent après. Et puis en plus, tu te dis, est-ce que si je l'exclus, du coup, ça veut pas dire que je suis incapable d'intégrer des gens qui sont pas comme moi. Et puis parfois tu te dis, bon bah non, finalement je les exclus pas, quoi. Et je me demande si on les exclut pas parce qu'on manque de courage, ou si parce qu'on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout et de se dire, bah non, en fait, forçons-nous avec des gens avec qui c'est compliqué. Ou enfin voilà, et je suis tout le temps dans ce truc là de, est-ce que je le fais pas parce que je manque de courage, ou est-ce que je le fais pas parce que je sais pas le faire, ou est-ce que je le fais pas parce que ça me passe au-dessus. Donc après, je pense que de toute manière, c'est pas une solution. En fait, l'exclusion n'est pas une solution, quoi. Et qu'on cherche quand même toujours un peu la justice. Bah oui, cette personne, franchement, elle m'emmerde royalement. C'est pas communiqué, mais en vrai, sa structure, elle est top. Et elle fait plein de trucs pour le projet, donc qu'est-ce que j'en fais, quoi. Et c'est là où bah, y a moi, mon travail de tous les jours, puis il y a le projet, et du coup, qu'est-ce que je mets dans la balance, quoi. Et nous, c'est assez chouette, parce qu'on est quand même pas mal à décider, et autant on galère à mettre en place une gouvernance partagée sur le collectif à 500, autant entre nous, les trois structures Yes We Camp, Aurore et PU, c'est plutôt fluide, c'est assez agréable, quoi. Et du coup, on est plutôt, on arrive à se mettre d'accord, en tout cas on arrive aussi à ne pas être d'accord de temps en temps. Mais avec les autres, c'est pas évident. Mais je pense que si j'avais un autre projet de cette ampleur ou pas, ou en tout cas dans le collectif, j'aimerais bien apprendre à gérer du coup les conflits, les désaccords, enfin, en tout cas apprendre à les comprendre aussi. Je pense qu'il y a des résidents qui sont du mal en étant ici. Et j'aimerais bien qu'ils soient ailleurs, ouais. Ouais, je pense que c'est un site qui est quand même... qui est dur. Je pense que c'est un site qui est compliqué aussi, qui peut être festif. Quand t'es une personne et qui a des addictions, bah en fait tu vis quand même sur un lieu où il y a un bar, où il y a de la vente d'alcool. T'es aussi... finalement tu vis là et tu l'as pas choisi, puis tu vois... plein de gens arrivés qui ont de l'argent, qui consomment, c'est hyper dur, quoi. Enfin, en fait, tu vois, moi je me dis souvent, putain, c'est comme si je vivais dans un endroit où il y avait que Bolloré et ses copains, quoi. Là, à un moment donné, ils faisaient que ce qu'ils voulaient, tu vois, que ce qu'ils pourraient faire, quoi. Je sais pas, moi, un défilé de yacht. Tu dis quand même, putain, enfin, ça peut pas être évident, quoi. C'est des grosses claques dans la figure, quand même, voir des gens, tu vois, dépenser des billets pour des peintres, pour juste faire la fête, quoi. Si on devait avoir un, tu vois, un peu l'éthique du lieu, ce serait quel apport au projet collectif, quoi. Enfin, je mets le collectif avant tout. Mais ça n'a pas été forcément acté, et je sais pas si c'est respecté. Puis même, en fait, même nous, tu vois, parfois je me demande dans quelle mesure on met le collectif, et le collectif au sens large, tu vois, avant tout, avant les décisions qu'on prend. Mais comme ça n'a pas été bien défini, peut-être qu'on arrive un petit peu tous à s'en accommoder quand on peut, et puis à l'oublier quand c'est un peu plus difficile de s'en accommoder. Mais puis nous, en fait, on est un peu aussi les garants de ça, quoi. Là, c'est nous qui décidons, non, éthique, pas éthique. Tu rentres, tu sors. Bon, heureusement, on n'a pas le courage de virer des gens, mais tu vois.
Est-ce que c'est possible de gérer du conflit avec une gouvernance pas tout à fait aboutie, quoi?
Ah non, bah, bien sûr que non. Et c'est aussi pour ça que finalement, on lâche un peu, enfin, on s'est quand même vraiment posé ces questions-là, en fait, puis on s'est finalement rapidement rendu compte que les intentions du projet de la saison 2, d'avoir une gouvernance partagée, parce qu'on avait mis en place les cercles et les comités, c'était pas suffisant, en fait. On n'avait pas défini les mandats de décision, donc en fait, tu te retrouves à devoir dire à un cercle qui a pris une décision, bah non, c'est pas possible, parce que ça, c'est moi qui décide. Bah ouais, mais depuis quand? Bah ouais, désolé, je vous avais pas expliqué, mais en fait, quand ça touche à ça, c'est nous, quoi. Donc rapidement, on s'en est rendu compte, quoi. Sauf qu'on s'est dit qu'en fait, c'était pas, enfin nous on était incapables tout seuls de, tu vois, réaplanir tout ça, d'essayer d'initier cette gouvernance-là. D'une part, en fait, on sait pas faire ça. Enfin, tu vois, c'est un truc qui s'apprend quand même. Il faut qu'on soit accompagné, il faut qu'on ait du temps. Et en fait, on n'avait pas tout ça. Mais moi, j'ai pas mal de potes qui sont un peu facilitateurs, qui font des trucs comme ça. Et donc, souvent, je leur posais la question, quoi. T'es là, bah ouais, mais en fait, faites-vous accompagner. Parce que ça, c'est pas un truc qui se... Tu décides pas du jour au lendemain de faire ça et t'y arrives, quoi. Alors nous, Aurore, j'ai l'impression qu'on bénéficie un peu d'une... de l'image de sainteté sur le projet, quoi. Et donc on n'est jamais, en tout cas pas en face, on n'est pas trop critiqué, quoi. Alors les trucs qu'on fait pas bien, etc. Mais tout ce qui est opacité financière, manque de courage, c'est pas nous. Enfin nous on fait de l'urgence, on fait du social, on est les bons, quoi.
Ça n'a pas été toujours le cas. Au moment de du changement de la phase 1 et de la phase 2, là où quand les résidents sont partis en masse, c'était difficile pour vous.
Ça a été compliqué, pour nous à gérer. Enfin, on sait, de toute façon, on savait que ça allait être compliqué. On sait que c'est compliqué de reloger 300 personnes. On sait qu'il y a toujours des gens qui vont rester. Mais à la fois, on sait aussi qu'on ne remet pas de personnes à la rue. Enfin, tu vois, donc il y a... c'est un peu contradictoire parce qu'à la fois, c'est pas agréable, c'est stressant, c'est inquiétant. Mais en fait, tu sais qu'il va y avoir pas une finalité heureuse, hein, mais qu'il n'y aura pas de drame, quoi. Je pense qu'avant de faire du travail d'insertion, il faut apprendre à réviser aussi sa manière à changer le cours de la vie d'une personne. Tu rencontres une personne qui dit « putain, moi je galère, j'ai trop besoin d'un boulot, mais t'inquiète, en fait, on va te le trouver, parce qu'en fait, le champ des possibles, il est infini ici. » Et en fait, la souffrance, elle a aussi été vécue par de fausses promesses. Où t'as envie d'aider une personne, quoi. Enfin, tu vois, la personne, elle te dit qu'elle galère, et toi, t'es là, bah ouais, non, mais t'inquiète, on va trouver une solution. Puis, bah, en fait, tu te rends bien compte que c'est quand même vraiment pas si facile que ça, et puis, toi, ta vie a continué, quoi. Donc, à un moment donné, tu vas pas non plus retourner toute la ville pour trouver une solution. Et je pense qu'il y a ça, il y a ce truc de finalement, c'est les personnes qui sont hébergées ici, elles ont été amenées à rencontrer tout un tas de gens qui sont plutôt bienveillants, tu vois, et qui avaient vraiment envie d'aider. Et qui ont fait miroiter, pas de manière malveillante du tout, des choses qui ne sont pas passées. Qui ne sont pas passées parce qu'en en fait, ils se sont rendus compte à quel point c'était compliqué de faire ce travail-là et d'insérer ces personnes, quoi. Et donc, je pense que ça arrive pas trop tard parce qu'aujourd'hui, ça arrive et ça se passe bien parce qu'il y a un vrai travail entre Aurore et YesWeCamp sur comment on essaye de faire ça au mieux, quoi. Et pour le coup, on s'accompagne mutuellement. À la fois, c'est hyper intéressant pour les équipes d'Aurore de voir... comment un resto et tu vois un bar arrive à faire de l'insertion, en fait. Et puis nous on les accompagne sur en fait comment tu mets ça en place, comment tu accompagnes les personnes, quel est ton discours aussi. C'est pas parce que tu proposes un emploi à une personne que tu promets des papiers, en fait. C'est pas possible. Et donc je pense que ces souffrances, elles sont venues de là, en fait, des faux espoirs.
C'est là que le rôle du travailleur social intervient, ouais, en disant attention,
tout à fait.
Et attention à la promesse, ouais. Attention à la manière dont vous liez
tout à fait.
Avec des personnes qui sont demande et en besoin.
Mais je pense que le temps de réaliser que c'était aussi ça, le travail du travailleur social sur le site des grands voisins, il s'en est passé des mois, voire même des années, quoi. Et c'est pas évident, en fait, quand tu es travailleur social ici, tu fais aussi un peu de l'intermédiation entre le futur employeur, l'accompagnateur qui éduque, la nana qui fait les contrats. Enfin, tu vois, un peu un truc où, en fait, t'es 15 à chaque fois que tu prends une décision, quoi. Parce que chacun apporte un peu sa petite contribution et fait au mieux. Mais ouais, c'est pas... C'est dur pour les gens qui l'ont vécu, mais c'est aussi dur pour les gens qui ont fait ces fausses promesses-là, qui se rendent compte aujourd'hui de ce que ça pouvait projeter dans l'imaginaire du gars, quoi. Je pense que c'était aussi c'était un grand test, quoi. enfin viens, on leur donne la possibilité d'être bénévole, puis on verra ce que ça change. Bon, bah, en vrai ça donne de la frustration et c'est pas 100% gagné, mais et donc on sait aujourd'hui que c'est pas quelque chose qu'il faut forcément mettre en avant, quoi. Alors nous, en tant que grosse structure du social, l'enseignement qu'on va tirer d'ici, c'est en fait, c'est tellement génial de travailler avec des gens qui ne sont pas du milieu social, parce qu'en fait, ils nous font tellement évoluer sur nos pratiques et sur notre manière de voir le monde, de penser aussi autrement le social. Enfin, tu vois, on en vient aujourd'hui à se dire, ce serait quoi le CHU du futur? Et c'est hyper intéressant d'en parler avec des gens qui repensent la ville, quoi. Et tu vois, jamais, moi, ça m'arrive dans mon boulot sinon, de penser à ça. Donc, je trouve que ça nous donne une ambition. Et encore plus de grains dans le moulin de notre innovation, tu vois, ça, je trouve ça génial. Et je pense que l'enseignement que Yes We Camp aura pu tirer, c'est que effectivement, il y a quand même un peu une pratique du social général et générique où tout n'est pas bon à prendre, mais il y a quand même des bases sur lesquelles faut apprendre à construire ce qu'on veut faire, quoi. Les projets se construisent quand même sur cette base-là. Mais c'est trop chouette, j'étais en réunion avec eux. La dernière fois, ils se posaient la question de savoir s'ils n'allaient pas embaucher un travailleur social. Et en fait, là, tu te dis, putain, mais c'est trop bien. Alors, à la fois, nous, on a envie de continuer à les accompagner là-dedans parce que c'est hyper enrichissant. Mais à la fois, en fait, là, tu sens que, en fait, on fait vraiment tellement évoluer nos métiers l'un et l'autre que ça donne vraiment envie de continuer, quoi. Alors déjà, je pense qu'Aurore avait jamais imaginé, tu vois, que ça puisse se faire, ça. Et puis il y a quand même un truc de, oui, c'est un projet collectif, etc. Par contre, attention, le social dans les centres d'hébergement, c'est Aurore, quoi. Je pense que c'est pas la volonté comme ça, mais que c'est la manière de pratiquer, en fait. Et que sur ce site-là, bon, ça a été très compliqué, hein, pour les travailleurs de Pierre Petit, voir arriver tout le monde qui veulent un peu révolutionner la face du quartier, te dire comment faire ton travail, sortir les résidents des chambres à ta place, tu vois, à un moment donné, où je pense que du coup tu construis des barrières encore plus hautes, quoi. Donc ça a été compliqué de faire sortir finalement les travailleurs sociaux. Là aujourd'hui, on est dans une configuration du projet où c'est facile. Franchement, le travail a été fait, quoi. Il y a quand même toujours des difficultés, évidemment, mais en tout cas, ça sort, quoi. Je dirais que l'étape d'après, ce serait de laisser rentrer. Et c'est là où on n'y est pas encore, mais je pense que ça viendra, quoi. Laisser rentrer, ouais, je pense que c'est vraiment l'étape d'après, mais tu vois, ça pourrait se faire sur ce projet-là, parce que les gens sont mûrs. Je me dis, reprendre un nouveau projet et arriver à ce stade-là d'évolution, ça me paraît difficile, quoi. Ça me paraît hyper difficile.
Parce qu'on pourrait commencer à repenser ce que c'est un centre d'hébergement d'urgence.
C'est ça, tout à fait.
Et pas uniquement sur son espace public, mais aussi savoir qu'il y a dedans de l'espace public.
Ouais. Et puis...
Et on arriverait à commencer à alterner chambre, atelier d'artiste, par exemple.
Peut-être. Tout à fait, ouais. Mais non, faire rentrer. Prochaine étape.
Merci.
Encore.